Vous écoutez France Culture.
À voix nue. Toute cette semaine, hommage à Albert Jacquard, généticien, humaniste engagé, qui nous a quittés le 11 septembre. Jacques Lacarrière rencontrait Albert Jacquard en 1993. Ce soir, découverte, idées fausses et recherche.
Je tiens à préciser pour ces entretiens qu'on va avoir que si je vous pose des questions, c'est à vous, c'est-à-dire que ce n'est pas à la science en personne, n'est-ce pas ? D'abord, la science
d'abord est, je ne suis pas la science
est féminine, et puis en plus, c'est vraiment à vous, à votre itinéraire, à votre cheminement, tel que j'ai découvert à travers vos œuvres. Et en ce qui me concerne également, je précise tout de suite que je ne suis pas du tout le représentant de la littérature, ni de l'écriture, mais quelqu'un qui, comme vous, a eu un cheminement très long pendant des années, qui l'a amené à des regards sur le monde que je crois assez proches des vôtres. Voilà. Alors, il y a une question qui, depuis des années, me vient à l'esprit, et je suis content de pouvoir vous la poser, parce que je l'ai remarqué, cette question, pendant longtemps, dans des milieux différents, et dans des cadres complètement différents. Je vous rappelle de deux choses. La première, c'est l'avancée de la science, les découvertes qu'elle a faites, et qui nous permettent de voir le monde de façon foncièrement différente de ce qu'on pouvait encore en penser il y a au moins 50 ans, et d'un autre côté, en dépit de tous les moyens d'information, de tout ce que notre époque arrive à susciter par la radio, la presse, aujourd'hui la télévision et même les satellites, j'ai le sentiment qu'une part infime de ce que la science a trouvé ou découvert parvient au grand public d'une façon profonde. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des slogans qui arrivent, mais il n'y a pas de changement profond, semble-t-il, dans la façon dont nous regardons le monde. Et en disant récemment les résultats d'une enquête aux États-Unis, d'un journal d'ailleurs assez sérieux, puisque c'est le journal de l'Université de Princeton, on dit dans ce journal que 47% de la population pense aux États-Unis que le monde a été créé par Dieu il y a 10 000 ans. Alors au fond, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu désespérant ?
Non, ce n'est pas désespérant, mais ça pose problème. Vous savez, ces vieux regards sont véhiculés par des mots de tous les jours. Je crois que chaque fois qu'on dit « le soleil se couche », où j'ai assisté au lever du soleil, on dit une crétinerie, qui fait passer l'idée que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre et qui va se lever et se coucher. Or, on le sait bien, théoriquement, c'est la Terre qui tourne. Mais il n'empêche que, dans les phrases, on admet encore que le soleil agit en se levant et en se couchant. Et par conséquent, dans la représentation intérieure de la plupart des gens, c'est le soleil qui tourne. Et c'est un petit peu la même chose du point de vue de l'âge de la Terre. 10 000 ans, ça semble beaucoup, alors qu'on sait maintenant que c'est infime. Mais dans une lettre de Teilhard de Chardin, donc cet homme très informé de la théorie de l'évolution, il se plaint que ses collègues jésuites n'arrivent pas à le croire quand il leur dit que la Terre a plus de 10 000 ans. Pour eux, ils en sont encore à la Bible, avec Adam et Ève, il y a... Je crois que c'est 6000 ans avant Jésus-Christ, peu importe. Il y a un calcul très simple que l'on fait en comptant les générations qui nous mènent jusqu'à Adam. Et ça arrive comme ça, disons, quelques milliers d'années. C'est presque rien. Mais penser que, en fait, la réalité, c'est que l'homme est apparu il y a des centaines de milliers d'années ou des millions d'années, que la vie est apparue il y a des milliards d'années, je crois que ce sont des idées qui n'arrivent pas à pénétrer les consciences. C'est très difficile. Et dans mon domaine, puisque je suis généticien, je me bats contre une phrase que nous disons tous, « les enfants que j'ai faits ». Et il faut dire, monsieur, vous êtes, ou madame, vous êtes incapable de faire un enfant. Ce que vous savez faire, c'est soit des spermatozoïdes, soit des ovules. Et les enfants que vous avez eus ont été faits par un ovule qu'elle avait fait et un spermatozoïde que vous aviez fait. C'est complètement différent. Et ça met en évidence qu'il y a, entre moi et mes enfants, un échelon intermédiaire, ce qu'on appelle des gamètes, ovules et spermatozoïdes. Et ça change tout. Mais malheureusement, la simple phrase « les enfants que j'ai faits » camoufle cette réalité. Donc, le langage que nous employons camoufle les concepts totalement nouveaux que nous apporte la science. Et ce que nous avons de la peine à comprendre, c'est à quel point, et vous l'avez dit, La science vient de renouveler complètement notre regard sur le monde. Et là encore, il faut se battre contre une idée que tout le monde dit. Moi, je suis sérieux. Moi, monsieur, je regarde avec mes yeux. Je crois ce que mes yeux me disent, etc. C'est la phrase la plus bête que l'on puisse prononcer. En fait, mes yeux ne me disent rien du tout. Mes yeux me disent qu'il y a du rouge, du bleu, du jaune. C'est tout, que ça bouge ou que ça ne bouge pas. C'est mon cerveau qui transforme ces couleurs ou ces mouvements en une explication. Même voir le soleil, c'est déjà une activité cérébrale, car ce que l'on voit, c'est une tache qui est lumineuse et dont on ne sait pas s'il est toujours la même. Donc l'appeler le soleil, même nom que celui d'hier ou que celui de demain, c'est déjà un effort intellectuel formidable. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour passer d'une tache qui bouge et qui est très lumineuse à un soleil qui est toujours le même. Eh bien, on ne voit qu'à travers ces concepts. Et c'est une idée rarement dite. On regarde le monde avec des concepts et pas avec des sens. Car un sens sans concept, c'est rien, absolument rien. Or, il se trouve, et c'est pour moi quelque chose de merveilleux, que nous venons de vivre un siècle de remise en cause complète d'à peu près tous les concepts. Je suis persuadé que dans quelques 500 ou 600 ans, on dira les gens du XXe siècle, comme ils ont eu de la chance, ils ont vécu la Renaissance. Bien sûr, il y a eu une première Renaissance avec Galilée, Copernic et quelques autres, mais pas grand-chose. On a changé quoi ? La place de la Terre, qui n'était plus au centre du monde, la notion de force ou la notion d'accélération, peu de choses. Tandis qu'au XXe siècle, on a tout changé. La matière, le temps, l'entropie, la vie, tout a changé. Et malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Et j'aimerais que l'enseignement, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, qu'on dise aux enfants, vous avez une chance inouïe. Vous venez de vivre un siècle de remise en cause complète et on ne vous le dit pas. Et méfiez-vous, tous les mots qu'on emploie, ça revient à votre première phrase, à votre question, nous camoufle ce changement. Alors, bien sûr, 47% des Américains croient que le monde a 10 000 ans. Mais pour eux, 10 000, vous savez, 10 000, c'est beaucoup. Ils ne se rendent pas compte de la différence entre 10 000 et 10 millions. Dites à des gens que, par exemple, on vient de s'apercevoir, d'après certaines théories, que le soleil ne va pas s'éteindre dans 5 milliards d'années, mais seulement dans 1 milliard d'années. Ou catastrophe ! C'est donc beaucoup plus proche qu'on ne l'imaginait, c'est vrai, 5 fois plus. Mais c'est quand même encore très, très, très loin. Et pour notre imagination, 5 milliards, 5 millions ou 5 000, c'est à peu près pareil. Il faut être mathématicien, écrire des zéros derrière les 1 pour s'apercevoir que ce n'est pas la même chose. Eh bien, en France, on s'est aperçu, je crois, il y a eu un livre qui est paru il y a 2 ou 3 ans, « Les Français sont-ils nuls ?» Je crois que c'était le titre. On s'est aperçu que un bon quart des Français pensaient que la vache et l'homme n'avaient pas d'ancêtre commun. Non, ce n'est pas possible. Alors, pour quelles raisons ? Eh bien, parmi les raisons données, c'est que la vache donne du lait. Alors là, je n'ai pas bien compris. Et pourtant, l'homme n'en donnerait pas, paraît-il. Enfin, tout au moins dans l'espèce, la race féminine. Ou bien, est-ce que c'est la Terre qui tourne ou le Soleil qui tourne ? Il y avait un bon quart des Français qui pensaient encore que c'était le Soleil qui tourne.
En fait, mais est-ce que vous ne pensez pas que, effectivement, ces visions sont rassurantes, les visions traditionnelles ? D'abord, elles sont de nature religieuse. Ce sont, disons, des mythes qui ont la vie dure, parce qu'en même temps que l'histoire du Soleil ou de la Lune ou de la Terre, ils racontent autre chose. En fait, ils racontent notre naissance à l'image de Dieu. Alors, peut-être que la science, je m'excuse de dire la science, disons que les découvertes scientifiques ne nous proposent plus de miroir de nous-mêmes. Si nous admettons, ce que j'admets volontiers, que nous sommes dans un monde où les galaxies sont par milliards et sont à des milliards d'années-lumière, où est notre miroir ? Désormais, nous n'avons plus. C'est-à-dire, on est en train de dissoudre le dernier lien, j'allais dire presque, affectif, qui, dans les traditions, donnait un sens à notre vie dans l'univers. Alors, je trouve ça grandiose, magnifique, et moi, je suis ébloui, et je suis heureux de vivre ce siècle. Je me souviens toujours que dans un livre d'astronomie de 1930, un astrologue qui devait s'appeler Lucien Rouault, et qui avait fait ce livre, et disait, d'après les découvertes, que la surface de la Lune devrait être couverte d'une fine poussière, étant donné les chutes de météorites qu'elle a dû subir, et donc que si on débarquait un jour sur la Lune, on trouverait une fine poussière. Et j'ai noté en marge, en 1932, « Saurais-je un jour si c'est vrai ?» Eh bien, il y a eu la réponse, En 1969. Donc, ceci pour vous dire que ce siècle est prodigieux. Hein. Ce siècle est prodigieux sur ce plan-là. Également, il a donné des réponses à des choses ou des visions qu'on peut avoir enfant, comme l'intérieur du corps humain, par exemple. Il y a un voyage fantastique dans le corps humain qui, maintenant, sont menées courantes avec le microscope électronique. Mais tout cela, disons que ça peut aller avec quelqu'un qui a un certain besoin ou sens de la poésie. Moi, je n'ai pas peur de ne plus avoir de sens dans un monde où il y a des milliards d'étoiles. Mais est-ce que la raison inconsciente, et je me demandais si ça vient enfin de la, je dirais, de l'inertie de la religion, non pas en tant que religion, mais en tant que système mythique qui explique la création du monde, est-ce que ça vient d'une inertie de la religion, ou est-ce que ça vient peut-être du sentiment inconscient que si l'on suit, ou si l'on admet simplement, sans même les approuver, si l'on admet l'état actuel des découvertes, on va rompre le dernier, comme disait l'abbé Breuil d'ailleurs à Théière du Chardin, justement, il disait, nous sommes en train de rompre le dernier lien qui nous relie à l'homme du néolithique. Est-ce qu'on va, on rompt aussi peut-être ce lien, et on se trouve donc dans ce que Sioran appelait le désert infini et lumineux du néant.
Ah, bien sûr, c'est douloureux de changer de miroir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais on va tomber sur un plus beau miroir. On était sur une sorcière, un miroir qui déforme. Et j'espère qu'on est sur un miroir qui est moins déformant. Et je vais être tout heureux d'être face à moi-même devant le miroir nouveau que me donne la science du XXe siècle. Vous avez raison. Pourquoi est-ce que, par exemple, au temps de Galilée, on a refusé, l'Église catholique romaine a refusé l'idée de la Terre qui était simplement une planète autour du Soleil. C'est pas pour des raisons astronomiques, ils s'en foutaient de l'astronomie. C'est pour des raisons métaphysiques, parce que Dieu était venu sur la Terre avec Jésus-Christ. La rédemption, c'est un événement formidable, cosmique. Voilà que Dieu, tout d'un coup, envoie dans l'univers matériel son Fils. Il va quand même pas l'envoyer sur une petite planète de rien du tout. Quelconque. Et par conséquent, la grande impossibilité, c'était d'admettre que Jésus-Christ, Fils de Dieu, était venu ailleurs que sur le centre du monde. Ce n'était pas possible. On raconte d'ailleurs que le pape de l'époque aurait dit à Galilée, dans un coin, « Écoutez, du point de vue astronomique, probablement vous avez raison, ça semble assez évident votre histoire, mais je m'en fous, il ne faut surtout pas le dire. » Parce que vous remettez en cause le concept même de Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ qu'il était question avec Galilée. Ce n'était pas de la Terre et des étoiles. Parce que c'est une vision, et Jésus-Christ, c'est donc, et pour moi, chrétien, c'est important, Jésus-Christ. Mais justement, il faut le voir autrement. Complètement autrement, c'est une remise en cause bien plus profonde qu'on ne l'imaginait. Ce que nous apporte Galilée, c'est en fait une remise en cause de la définition de l'homme. Et ce que nous apporte la science du XXe siècle, c'est justement ça. Et c'est là où je crois pouvoir vous dire que la science du XXe siècle me donne une vision de moi-même bien plus émerveillante que celle d'avant. Je suis encore plus content d'être un homme quand je définis l'homme à travers la science de cette fin de siècle que quand je le définissais au temps du Moyen-Âge ou même de Théière de Chardin. Je suis bien plus beau qu'on ne l'imaginait. Alors, de quoi je me plaindrais? Seulement, il faut accepter de tout remettre en cause. Vous parliez par exemple des changements conceptuels qui nous déroutent. Mais songez qu'un mot important, c'est le mot temps, la durée, etc. Et la durée débouche très rapidement sur le concept d'éternité. Tout le monde en parle de l'éternité. L'éternité, c'est quoi? C'est un temps qui n'en finit pas. Eh bien, c'est faux. Voilà que le XXe siècle, à coup d'équation, nous dit que c'est faux. Et le plus étonnant pour moi, c'est malheureusement jamais dit, c'est qu'une belle équation d'Einstein, revue par Schwarzschild, nous permet de montrer que le concept d'éternité ne tient pas debout. Là, bon, tant pis pour les auditeurs que ça embêtera, mais il faut faire l'expérience suivante, expérience par la pensée, comme le disait Einstein, une Gedankenexperiment. Alors, vous allez vous promener près d'un trou noir, parce que vous êtes un homme curieux, vous vous êtes promené partout.
Pas trop près quand même.
Hein. Alors, passez pas trop près. Mais, alors j'imagine que curieux comme vous êtes, mais au fond, vous avez tort, parce que vous verrez rien, rien ne part du trou noir. Vous allez dans une fusée près d'un trou noir. Et moi, astucieusement, et pour vous jouer un mauvais tour, je mets en panne votre fusée. Comme vous allez être attiré par le trou noir, vous allez tomber dedans. Et ça va mal se terminer, comme vous l'imaginez, car une fois dans le trou noir, vous allez avoir une densité telle que... un trou noir, c'est un corps dont la densité est telle que la masse entière de la Terre tient dans un centimètre cube. Il faut vraiment que ce soit vraiment très, très, très dense. Bon, On pensait, quand on a découvert ça à coup d'équation, que ça n'existait pas. Maintenant, on est bien persuadé que ça doit exister dans la réalité. Donc, vous êtes près d'un trou noir. Et près de ce trou noir, tout d'un coup, vous n'avez plus de moyen de lui échapper, puisque votre fusée, je viens de la mettre en panne. Et comme consolation, j'imagine que vous sortez de votre formulaire l'équation d'Einstein et vous calculez, compte tenu de la distance initiale, de votre masse, de la masse du trou noir, le temps de la chute. Et vous tombez sur 8532 secondes. Bon. Eh bien, je peux vous affirmer, je crois que je gagnerai mon pari, que si vous regardez votre montre en arrivant dans le trou noir, vous vous direz « Ah, quel bonheur, mes calculs sont justes, ma chute a duré 8532 secondes. » Bon, tout va bien. Mais moi, je vous regarde de loin pour voir ce qui vous arrive. Et je vous vois tomber dans le trou noir. Vous tombez d'abord de plus en plus vite. Et puis vient un moment où vous tombez de moins en moins vite. La vitesse de chute se ralentit. Elle tend vers zéro. Et vu par moi, la durée de la chute dans le trou noir dure un temps infini. Vous n'y arrivez jamais. Donc le même événement, vécu par deux personnages parfaitement sensés, avec des sens qui sont les mêmes, avec des montres qui sont les mêmes, qui mesurent avec la même précision les durées. Le même événement dure 8000, je ne sais plus combien de secondes pour vous, et dure une éternité pour moi. Non pas parce que les montres sont modifiées par l'attraction ou je ne sais quoi. Non, les montres ne sont pas modifiées. C'est le temps qui est modifié. C'est l'écoulement du temps qui est modifié. Alors voilà qui est grave, c'est que le temps ne s'écoule pas de la même façon quand on est près d'un trou noir et quand on est loin d'un trou noir. Mais là, l'éternité de l'un, c'est 8000 secondes pour l'autre. Vous vous rendez compte?
C'est que là, on est peut-être moins loin alors qu'on le pensait de ce qu'on pourrait appeler la théologie. Parce que l'éternité est une donnée fondamentale des religions. Et sans qu'elle s'interroge, enfin, plus qu'elle ne le pouvait sur la nature du temps dans l'éternité, ça surprendrait peut-être moins des penseurs des premiers siècles. Je pense à Origène, qui a quand même écrit sur le temps des choses assez intéressantes, puisqu'il suppose des temps multiples en fonction de l'état intérieur de la matière humaine, selon temps des anges n'étant pas le temps des hommes, et le temps de ce qu'ils appelaient et les iliques, c'est-à-dire les hommes les plus matériels, ceux qui, précisément, n'ont pas d'élévation spirituelle ou même de croyance. Et puis le temps des pneumatiques, qui sont des hommes qui ont déjà en eux un souffle qui les rapproche de Dieu. Le temps des anges, et puis les créatures intermédiaires. Tout ce temps-là, pour lui, était des temps différents. Alors, le trou noir ou les découvertes contemporaines sont peut-être moins choquantes ou bouleversantes parce que l'éternité n'est pas une invention, bien sûr, des scientifiques contemporains. C'est un thème assez ancien. Et je dirais que ce que vous venez de me dire, on pourrait l'imaginer dans des romans de science-fiction de ce siècle également. Sauf que c'est effectivement une réalité probable. Alors, en vous écoutant et en pensant à cette inertie des mots, qui définissent les choses et qui font qu'on utilise un vocabulaire périmé pour parler d'un monde qui lui a changé radicalement dans sa nature, je pense que même le mot galaxie devrait être changé, alors qu'il est employé d'une façon tout à fait courante, parce que galaxie, ça veut dire lactescent, n'est-ce pas? Ça vient de la voie lactée, ce sont des univers lactescents, et tout simplement à la suite de la mythologie orphique, qui dit les orphiques, ces sectaires, mais sectaires au sens noble du terme de la Grèce ancienne, avaient une mythologie très intéressante où le monde était né d'un œuf primordial, très chaud et très dense, qui à un moment s'est fissuré, et par cette fissure, le vitellus, disons, qui se trouvait à l'intérieur, s'est répandu dans l'univers, créant donc à la fois et l'espace et le temps, et ils en voulaient pour preuve les filaments qu'il voyait dans la nuit, c'est-à-dire la Voie lactée, et s'il l'avait su d'ailleurs, les autres galaxies lointaines, qui seraient autant de filaments émiettés de l'œuf primordial. D'où ce terme de galaxie, qui n'est pas gênant du tout astronomiquement parlant, mais auquel on ne pense plus du tout lorsqu'on emploie, qu'il signifie des univers lactescents qui se multiplient dans l'infini. Mais je pense effectivement que être émerveillé par le monde tel qu'il se révèle, parce que c'est une nouvelle apocalypse au sens étymologique, apocalypse ça veut dire le dévoilement, n'est-ce pas, la révélation. Le monde tel qu'il se révèle est passionnant, mais pour être émerveillé par ce monde, ça veut dire aussi qu'il faut en somme avoir tranché ou avoir supprimé ou s'être détaché de ces liens qui nous ramenaient, j'allais dire, à un univers qui nous paraît aussi petit, aussi masquin, et je dirais aussi renfermé, que par exemple, c'est presque demander à un papillon de redevenir chenille, ou à un insecte de redevenir, de se nymphoser. Et c'est vrai que la science a éclaté les dimensions du temps et de l'espace, de telle sorte que désormais, nous sommes comme en plein vent solaire ou galactique. Nous ne sommes plus protégés par des mythes qui finalement faisaient de la Terre un cocon unique que Dieu avait élu et qu'il était venu sauver. Et nous ne sommes effectivement plus non seulement un cocon, on a brisé la carapace, on a brisé la cosse, on pourrait dire, des mythes, mais en même temps, on nous a aussi mis en face, je dirais, de tous les autres mondes qui peuvent être semblables, parce que j'avais souvent des discussions autrefois qui étaient peut-être de la science-fiction, moi j'appelle ça de la théologie-fiction, en disant, comme le pensait Giordano Bruno, qui est un homme tout à fait remarquable et qui a été brûlé parce qu'il disait que la Terre n'était pas le seul monde habité et que le monde était constitué de quantités de planètes et de soleils qui étaient les étoiles. Et voici un homme qui est mort sur un bûcher pour avoir dit tout simplement une chose qui s'est révélée vraie des siècles plus tard. Eh bien, il faut penser à ce moment-là que si on veut donner raison aux théologiens, il y a eu autant de rédemption, de réincarnation et autant de Christ qu'il y a de terres habitées avec des êtres anthropoïdes ou hominiens. Et là, vous voyez, on est peut-être dans le dernier point de jonction entre la théologie et la science moderne. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez chrétien. Et moi, j'ai beaucoup apprécié dans vos livres à la fois le sentiment que vous avez des convictions et en même temps que le monde qui est le vôtre, celui de la science, et celui du regard, du nouveau regard sur le monde, ne semblait pas être en contradiction profonde avec votre croyance.
Pour moi, être chrétien, ça ne correspond à aucune croyance. Ça correspond simplement au constat que quelqu'un, qu'on appelle le Christ, a dit quelque chose qui n'était pas évident. Il a parlé d'amour. Point. Le reste ne m'intéresse pas. C'est assez gratuit de raconter des histoires pareilles. Dire « aimez-vous les uns des autres », c'est parfaitement gratuit, c'est pas prévu par la nature. Et pour moi, c'est ça que je vois dans le mot chrétien. C'est quelqu'un qui rajoute à la réalité du monde, telle que peu à peu, on la découvre, on la révèle, et bien qui rajoute cette dimension supplémentaire d'amour. C'est ça, être chrétien. Et ça, c'est pas une donnée immédiate. Par contre, je m'émerveille de ce que la science me donne. Quand vous dites « je sors du cocon », oui, mais c'est moi l'homme qui suis sorti du cocon. Je suis le seul sur la Terre, en tout cas, à savoir que le Soleil, c'est une étoile, et j'en suis une planète. Les autres animaux s'en fichent complètement, ils ne se posent même pas la question. Moi, je suis l'animal qui se pose des questions, et qui, de temps en temps, trouve des réponses, et qui vient d'en trouver des quantités. Et cette capacité que j'ai, depuis quelques centaines de milliers d'années, à m'interroger et à trouver des réponses, bien sûr, à chaque fois, ça me pose problème, ça m'enlève quelques mythes, mais j'en reconstruis d'autres, car la science est une série de mythes, mais de mythes qui se présentent comme provisoires, comme révisables. Songez au mythe qu'est le Big Bang. On sait bien que c'est une façon de raconter les choses, mais l'histoire du Big Bang est extraordinaire, puisqu'on a pris la main dans le sac. L'homme que j'admire le plus au monde, bien sûr, Albert Einstein, on l'a pris la main dans le sac à être victime des idées reçues. Je sais que s'il y avait quelqu'un qui n'acceptait pas les idées toutes faites et qui les remettait en cause, c'était bien lui. Or, Einstein développe sa théorie de la relativité générale en 1915-16. Et qu'est-ce qu'il découvre ? Que sa théorie doit être bonne, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle n'a appliqué à l'ensemble de l'univers, elle n'a pas de solution stable. Autrement dit, il n'y a pas de on ne peut pas expliquer que l'univers soit stable. Or, comme il imagine, lui, comme on l'a toujours cru, que l'univers était stable, il dit donc « mon équation n'est pas bonne ». Il rajoute un terme supplémentaire, qu'il a appelé la constante cosmologique, pour qu'il y ait une solution stable à son univers. Et ça n'est que 12 ans plus tard qu'on s'aperçoit que l'univers, effectivement, n'est pas stable. Alors, ce qui est à la fois merveilleux et un peu inquiétant, c'est que s'il avait cru en sa propre pensée, il découvrait avec un crayon et un papier, sans rien regarder, il découvrait que l'univers est en expansion, ou en contraction, lui, ça lui était égal, mais de toute façon, n'était pas stable. Donc l'idée que l'univers n'est pas stable, le constat que l'univers n'est pas stable, pouvait être fait simplement par le pur raisonnement. Einstein est allé presque jusqu'au bout, et au dernier moment quand même, il a calé, il a dit « c'est pas possible, comme l'univers est stable, c'est mon équation qui est fausse ». En fait, son équation était juste. Oui. Bon. Et puis après, on découvre que l'univers n'est pas stable. Mais c'est quand même merveilleux de penser que notre esprit a cette puissance-là, car si Einstein l'a trouvé, c'est qu'un autre homme aurait pu le trouver.
Non, mais ça tout à fait. Simplement, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que le cheminement actuel, hein, de la, que ce soit les mathématiques, l'astronomie, moi je ne les connais que superficiellement, mais ils vont effectivement vers un monde plus incertain et plus instable. Il quitte là encore, ou il se détache fondamentalement, de ce qui était le besoin des civilisations plus traditionnelles, qui était toujours un ordre, où tout est à sa place, où les anges sont bien quelque part, les démons aussi, les anges en haut, les démons en bas, entre les deux les hommes. Et ce monde-là, non seulement il s'écroule, il se perturbe, mais plutôt il éclate. Et maintenant, on a des principes d'incertitude dans le domaine de la physique élémentaire, on a le domaine de l'instabilité de l'univers en tant que tel, qui sont des choses, moi, qui ne m'effraient pas du tout, au contraire, mais qui sont vraiment une opposition complète à ce qu'a été la tentative d'image rassurante, cohérente, de cet univers à la fois riche, subtil, mais qui garde en lui quelque chose qui est fermé. L'idée d'un univers infini, par exemple, n'aurait pas peut-être surpris des théologiens, mais il faut toujours que dans la pensée théologienne, il y ait quelque chose qui soit une volonté, qui s'affirme par un ordre et qui parvient jusqu'à l'homme. Alors que là, c'est un peu le contraire, c'est l'homme qui est en train de défaire, comme on se démaillote au fond, progressivement, d'une carcasse ou d'un carcan inutile, ou tout au moins qui longtemps nous a protégés, parce qu'il nous a donné rigidité, cohérence, chaleur, mais dont maintenant nous pouvons nous passer. Je me demande si on n'est pas en train de devenir à une époque adulte, si la science ne nous rend pas vraiment adultes. Et alors, la notion d'adulte est une notion difficile, mais c'est-à-dire à affronter enfin maintenant, sans parapet mythique, sans, je dirais, garde-fou théologique, la réalité les réalités qui nous est proposée, c'est-à-dire l'instabilité fondamentale, l'incertitude nourricière, je dirais presque nécessaire, et d'une façon générale, un monde où il faut trouver nous-mêmes notre ordre et non pas l'attendre, ou des particules, ou des éléments qui nous sont proposés.
Vous me faites bien plaisir, votre mot démailloté est merveilleux. Pour moi, on est enfin entré dans la compréhension que ce monde était imprévisible, autrement dit, que demain n'existe pas encore, que demain n'est pas compris dans aujourd'hui, et que par conséquent, je peux prononcer le mot liberté.
C'était À voix nue, toute cette semaine, hommage à Albert Jacquard, que Jacques Lacarrière rencontrait en 1993. Attaché d'émission, Claire Poinsignon, réalisation Nicole Salerne, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jacques Lacarrière avec Albert Jacquard.